13 ans, je crois, maintenant. Il était tout maigre. Et voilà. Dans la foi et aussi physiquement. Il fait des études brillantes ici à Paris, qu'il paye lui-même en travaillant. Donc, c'est un homme courageux. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse au milieu de nous. Recevez-le bien. Amen.
Bonjour à tous.
Je suis très content de vous revoir. Ça fait pratiquement une année et quelques, parce que j'étais venu quand on renouvelle le château. Et depuis lors, je ne suis pas encore revenu et je suis content d'être là. Amen. Alors, je remercie le pasteur Michel qui m'a reçu ici, comme il l'a dit, quand je devais venir à Paris ici. Moi, je crois en toi que c'est le Seigneur qui m'a conduit pour venir ici. Mais je ne savais même pas, comme Abraham, hein, j'ai eu le visa, mais je ne savais pas, je vais aller où exactement. Parce que normalement, je devais aller à Bordeaux. À la dernière minute, le Seigneur m'a montré qu'il fallait pas, c'était pas le coin, il fallait venir ici. Mais maintenant, où il fallait aller, c'était une grande interrogation. Et c'est Michel qui est venu me chercher à l'aéroport d'Orly. Et j'ai passé quelques temps avec vous ici, avant maintenant encore d'aller à Paris pour voir qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais aujourd'hui, les choses sont de plus en plus claires. Amen. Et le Seigneur est en train de me conduire et je sais que, en tout cas, on aura un grand témoignage. Parce que dans mon cœur, c'est pas de venir rester ici ou de venir chercher de l'argent. Dans mon cœur, ce que j'ai à cœur, comme ce que j'avais dit à Michel, premièrement, c'est de connaître les Écritures et de pouvoir traduire la Bible dans ma langue. Et comme il faut traduire la Bible pour des gens qui sont convertis, alors donc la mission sera accompagnée d'une mission d'évangélisation et d'implantation d'église. Et pour que cela puisse marcher, j'ai aussi à cœur que cela soit accompagné par des projets génératifs de revenus. Le Seigneur m'a donné tout un plan que je compte après écrire. Je ne compte sur en réalité, personne. Je compte sur le Seigneur et sur ce qu'il m'a déposé. Parce que quand Dieu dépose un ministère, il a aussi les moyens de l'accomplir. Voilà. Et j'ai ça vraiment profondément ancré dans mon cœur. Amen. Et je remercie vraiment le pasteur Michel. Il aura été, en tout cas, un pont pour l'accomplissement de cela. Je sais que d'ici 7-8 ans, parce que c'est des projets de long terme, pour commencer à implanter des églises, traduire une Bible, c'est pas de l'amusement parce que il y a des sucesses qui ont déjà traduit le Nouveau Testament dans ma langue. Elles ont fait passer 35 ans. Écoutez bien. Le Nouveau Testament seulement, elles ont fait 35 ans. Donc, pour l'Ancien Testament, ça doit quand même prendre du temps. J'ai mon neveu qui fait l'université de Ouagadougou et qui, en même temps, est à l'école publique. Je compte bien travailler avec lui. Il a l'école publique, il fait l'université. Je compte d'ici là, le faire partir à Abidjan pour faire une licence, carrément, une licence en tradition biblique. Peut-être que moi j'avance en âge, et lui il est encore plus jeune, il fait une licence en tradition biblique, on pourra évoluer ensemble. Amen. Alors donc pour dire simplement que j'ai un grand projet dans mon cœur, et que Dieu a déposé, que je compte vraiment le réaliser. Je ne suis pas venu en aventure, mais je suis venu conduit par le Saint-Esprit. Amen. Alors vraiment je vous remercie, parce que chaque fois quand je viens ici, je suis recréé, je suis content. Je n'ai pas de parents ici, je n'ai personne que je connais. C'est vous qui êtes dans le corps de Christ, qui êtes mes frères, mes sœurs, dans la foi. Je suis content vraiment d'être avec vous. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons lire dans 1 Samuel, chapitre 3, versets 1 à 11. 1 Samuel, chapitre 3, versets 1 à 11. Je ne sais pas si vous... Vous avez vu, voilà. Je lis. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Mais voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. » Et il alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela Samuel comme les autres fois. Samuel, et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, donc, ce matin, nous allons parler de la consécration. Hier, le pasteur Michel, il a parlé de ça. Il a parlé du témoignage de sa maman. Quand il voulait un garçon, il s'est écrié, « Seigneur, si tu me donnes un enfant, je le consacrerai à l'Éternel. » Il dit, voilà, il est en train de parler du thème de mon message. C'est vraiment, nous allons parler de la consécration. Et nous allons prendre comme exemple la vie du jeune Samuel. Amen. Nous allons voir quatre choses dans sa vie, très rapidement, qui montrent qu'il était vraiment consacré à l'Éternel. Et ces choses-là, nous devons les imiter. Nous qui voulons servir Dieu, on doit les imiter. Alors, pour cela, je serai obligé de lire le verset 1. Verset 10 à 11. Chapitre 1, verset 10 à 11. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Amen. Alors, nous voyons que la vie de Samuel, quand vous lisez la Bible, si vous êtes des habitués de la Bible, Samuel fut un exemple. À la fin même de son ministère, il a demandé à tout Israël, quelle est cette personne-là à qui je dois quelque chose? Qu'elle se présente là? Voilà. Au moment où les gens réclamaient un roi, on disait que ses enfants n'ont qu'à quitter, ils n'ont plus besoin de ses enfants, ils veulent un roi. Samuel a demandé, qu'est-ce que je vous ai fait de mal? Dites-moi, si j'ai détourné le poulet de quelqu'un, ou j'ai pris quelque chose par corruption, montrez-le-moi. Donc, Samuel fut un homme vraiment exemplaire, consacré à l'Éternel, quelqu'un qui a un témoignage clean. Alors, il est bon donc d'imiter de tels hommes, de voir comment ils ont fait, quel a été leur cheminement, pour pouvoir donc nous aussi nous repérer. Parce que notre repère, ce sont les Écritures, ce sont les hommes de Dieu. Alors, ces quatre choses dont nous allons parler ce matin, c'est d'abord la disponibilité de Samuel, ensuite son obéissance, ensuite sa soumission et son humilité. Alors, nous voyons ici sa maman, donc qui n'avait pas d'enfant, la Bible nous dit qu'elle n'avait pas d'enfant, et elle a demandé un enfant à l'Éternel, parce que sa coépouse, chaque fois, se moquait d'elle durant les fêtes. Elle se moquait d'elle parce que, voilà, elle n'avait pas d'enfant. Donc, elle était obligée de prier, même de pleurer devant Dieu. Et alors, sa prière, donc, sera exaucée. Donc, il y a des versets que j'ai écrits ici, mais je n'ai pas besoin encore que vous retourniez dans la Bible pour écouter. Le verset 27 du chapitre, elle dit que c'était pour cet enfant. Quand donc, elle a été exaucée, elle est venue, elle a dit à Élie, c'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Donc, quand donc, la prière a été exaucée, la femme est revenue pour encore remercier le Seigneur, pour dire, voilà, je viens pour prêter l'enfant à l'Éternel. Et le nom Samuel signifie entendu de Dieu. Voilà, entendu de Dieu. Ça dit que sa prière a été entendue. Donc, comme sa prière a été entendue, qu'elle a été exaucée, elle a donné à Samuel le nom de « Entendu de Dieu ». Amen. Alors, c'est pourquoi ce matin, nous allons donc voir la consécration, mais ça signifie quoi? Voilà. La consécration signifie donc être mis à part pour une utilisation précise. Voilà. Être mis à part pour une utilisation précise. C'est comme une clé. Voilà. Une clé Il sait que l'église a une clé. La clé, elle n'ouvre que l'église. Ce n'est pas une clé passe-partout. On peut ouvrir l'église, aller ouvrir, passer, aller ouvrir par là. Non. Elle est consacrée. Elle est là pour ouvrir que l'église. Mais ici, il s'agit du service de Dieu. Donc, Samuel devait être consacré, c'est-à-dire mis à part uniquement pour un usage unique pour le service de Dieu. C'est ça la consécration. Alors, il avait quel âge quand sa maman est venue pour le consacrer à l'Éternel? Je ne sais pas. Peut-être 4 ans, peut-être 7 ans, je ne sais pas. La Bible n'est pas précise là-dessus. Mais on a dit que quand elle a sévré l'enfant, ben, c'était dans l'ancien temps et les Juifs avaient à peu près les mêmes coutumes comme nous les Africains. Pour sévrer l'enfant, c'est à quel âge? Chez nous, les enfants qu'on peut sévrer, bon, actuellement, on peut sévrer des enfants à 1 an ou 2 ans, mais dans l'ancien temps, parfois l'enfant avait 4 ans avant qu'on le sève, parfois même 7 ans. Il y a des enfants qui allaient conduire des brebis, et puis au retour encore, ils viennent têter leur maman avant de repartir encore suivre les brebis. Tellement ils étaient devenus grands et ils continuaient toujours de têter. Donc, je ne sais pas à quel âge exactement Samuel a été donc, envoyé au temple, mais ce qui est sûr, quand il a été sévré, la Bible dit qu'on l'a envoyé au temple. Alors, il y a de quoi tirer une leçon de là. Ça veut dire que rien n'arrive au hasard. Si tu décides, hein, j'entendais des frères qui parlaient de décision, si tu décides, tu choisis, même pour ton enfant, pour ta vie, d'être consacré à l'Éternel, c'est ce qui va arriver. Et comme disait Michel hier, sa maman s'est écriée, elle a demandé à un enfant, que si Dieu lui donnait un enfant, elle va le consacrer à l'Éternel. Voilà Michel qui est là, vous connaissez tout ce que le Seigneur l'a utilisé pour faire, et tout ce qu'il fait jusqu'à présent. Parce que la maman a décidé, et elle a crié à Dieu. Amen. Alors donc, tout est une question de choix, rien n'arrive au hasard. Il faut décider. Quand tu décides, la Bible dit que Dieu hait les hommes indécis. Dieu n'aime pas l'indécision. Quand tu es décidé, déterminé, alors, comme la Bible dit dans Ésaïe 26, 3, voilà, à ceux-là qui alors décident, hein, qui décident, Dieu accorde la paix parce qu'il se confie à l'Éternel. Alors, nous allons parler de la disponibilité. Donc, la consécration signifie donc qu'il faut être premièrement disponible. Et comment on peut définir la disponibilité? J'ai dit ici, c'est le caractère de quelqu'un qui non seulement est présent, mais aussi accessible et mobilisable à tout moment. Voilà. La disponibilité, je ne suis pas allé loin pour regarder dans un dictionnaire, mais pour moi, c'est quelqu'un qui est présent. Donc, la personne est présente, elle est là, mais elle est accessible. Parce qu'on peut être présent sans être accessible. La personne est là, elle est dans une porte fermée, comme certains responsables aiment mentir, ils sont dedans, ils disent, bon, quand on demande, il faut dire que je ne suis pas là. Et la personne est dedans, enfermé. Non, c'est pas ça. Il faut être présent. Alors, il faut être accessible. En même temps, mobilisable. Voilà. Mobilisable à tout moment. C'est ça vraiment pour moi la consécration. Voilà. On est présent. Voilà. Là, prêt à servir Dieu. On est accessible. On peut nous avoir à tout moment. Et puis, on est mobilisable. On peut nous demander service. On peut nous déplacer. Voilà. Va faire ceci, va faire cela. Et c'est ce que nous allons voir dans la vie de Samuel. Voilà. Donc, il était vraiment disponible. Je passe. Donc, on voit cela à travers cet nombre de versets. Le chapitre 1, verset 28, dit « Je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Ça, c'est d'abord sa maman qui parle. Ensuite, la Bible dit, au chapitre 2, verset 11, « L'enfant fut au service de l'Éternel devant Élie. » Chapitre 2, verset 18, dit « Samuel faisait le service devant l'Éternel. » Et cet enfant était vêtu d'un effort de lin. Chapitre 2, verset 21 dit, « Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. » Chapitre 2, verset 26 dit, « Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. » Chapitre 3, verset 1 dit, « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. » Chapitre 3, verset 3 dit, « Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. » Chapitre 3, verset 4 dit, « Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, « Me voici. » Verset 6, « Me voici. » Verset 8, « Me voici. » Verset 10, « Parle Éternel, car ton serviteur écoute. » Donc, à travers tous ces passages, nous voyons la disponibilité. Il était auprès de l'Éternel, il était au service de l'Éternel, il était couché dans le temple de l'Éternel. Quand Dieu a appelé, « Me voici. » Il était là, « Me voici. » Couché même dans le temple de l'Éternel. Donc, nous voyons que c'est une personne qui était présente, qui était accessible, mobilisable, disponible. Voilà. Donc, c'est la consécration, c'est aussi être disponible. Quand quelqu'un dit « Je vais me consacrer à l'Éternel », et une fois qu'on veut lui confier une tâche, ou Dieu met à cœur de lui confier une tâche, et la personne n'a jamais le temps, il y a un point d'interrogation. Il faut se demander. Dieu veut que tu fasses quelque chose, même le Seigneur te met à cœur de faire quelque chose, tu ne peux pas faire la chose, c'est qu'il n'y a pas de disponibilité, et il n'y a pas de consécration. Je passe maintenant à l'obéissance. J'ai défini qu'elle consiste à accepter, se soumettre et exécuter ce qu'on dit sans esprit de contestation. Voilà, l'obéissance c'est ça. Obéir c'est quoi? C'est se soumettre, accepter ce qu'on dit sans contestation, sans chercher à contester. Bon, il y a toutes sortes de conceptions aujourd'hui pour se révolter, mais moi c'est pas de ça que je veux parler. Quand on veut servir Dieu, on doit se soumettre à Dieu. Et ce que le Seigneur nous donne, nous dit de faire, il ne faut pas contester, il faut exécuter. C'est parce que les gens apprennent à raisonner, comme nous sommes des francophones, on a étudié la philosophie, etc. On apprend à raisonner, c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de miracles. On parlait de ça avec le pasteur Michel. Alors, il dit, les gens, Dieu dit de guérir les malades, et les gens prient pour les malades. Et voilà, c'est une façon de se dégager. Ah, moi, j'ai prié en tout cas. S'il est guéri, c'est ça. S'il n'a pas guéri, c'est ça. Oh, le Seigneur n'a pas dit de prier pour les malades. Il a dit, guérissez les malades. Donc, il faut prendre autorité, il faut aller avec un esprit que Jésus a tout accompli et qu'en priant, le malade doit être guéri. C'est une loi, c'est normal. Je suis capable de soulever ça. Si je le prends, ça doit se soulever. Si ça refuse de se soulever, c'est qu'il y a un problème à quelque part. Amen. Alors donc, l'obéissance consiste donc alors à accepter sans esprit de contestation. Et c'est ce que nous voyons donc dans la vie de Samuel. Je reviens encore à des versets. Chapitre 1, verset 28. J'ai dit là-bas, il est né trouvé qu'il fut prêté à l'Éternel sans son avis. Vous voyez, aujourd'hui, ça pose un problème. Hein. Voilà une maman qui dit, oui, si je gagne un enfant, il sera serviteur de Dieu. Sans même l'avis de l'enfant. L'enfant peut naître et dire, non, moi, je ne veux pas la foi, je ne veux pas ceci, je veux pas cela. Mais, quand il est né, il a trouvé qu'on l'a confié à l'Éternel. Sans son avis, il a accepté. Comment vous voulez qu'un enfant qui vient d'être sévré, que l'enfant soit séparé de sa maman? Peut-être que l'enfant, le temple de Dieu, avec là où ils habitaient, était à des dizaines de kilomètres, voire des centaines de kilomètres. Un enfant de 4 ans ou de 7 ans, du coup, aussitôt sévré, aussitôt on l'envoie là-bas, loin. Vous voyez que ça fait mal. Aujourd'hui même, souvent je lis les journaux, la question même de la circoncision est en train de se poser. Et les Juifs et les musulmans ne sont pas contents parce que l'Europe, un peu partout, les gens disent non, on ne doit pas circoncire un enfant. Il faut laisser l'enfant grandir et que l'enfant va décider s'il veut être circoncis ou pas. Cette question se pose, j'ai lu ça dans les journaux. Parce qu'il ne faut pas décider de circoncire ton enfant sans son avis. Il faut que l'enfant grandisse et dise oui. Bon, c'est vrai, c'est un projet de loi. Ils sont en train de voir ça sur le plan européen. Ce n'est pas encore exécuté. Mais si ça venait à être exécuté, c'est un problème. Donc, on ne peut plus décider pour un enfant, dire oui, bon, moi, je suis chrétien. Donc, mon enfant, voilà, je vais le baptiser ou comme font les catholiques. C'est vrai que nous n'agissons pas ici, mais je vais faire ceci ou cela. Laisse l'enfant grandir. Non, mais Samuel n'a pas eu cet esprit. Quand il est né, il a trouvé que donc sa maman l'avait demandé à Dieu, consacré à Dieu, ça vient l'accepter. Se séparer de sa maman et puis rester loin. C'est ça. C'est un prix à payer. Hein? Ah ben, c'est un grand prix à payer pour obéir à Dieu. C'est comme actuellement, je suis séparé de ma famille, ça me fait extrêmement mal. Mais je sais qu'à la fin, comme me disait une prophétie il n'y a pas longtemps, ce serait à la gloire de Dieu et il y aura un fruit à la gloire de Dieu. Donc, alors, ça c'est l'obéissance. Chapitre 2, verset 11 dit, l'enfant fut au service de l'Éternel devant Élie, donc sous le contrôle d'Élie. il faisait le service étant vêtu d'un effort de lin. C'est très important. Il fut au service de l'Éternel devant Élie. Vous savez que Samuel a été stagiaire. Le stage, hein, vous qui travaillez, vous savez, quand tu commences à travailler, tu as un temps de stage, un mois ou trois mois de stage. C'est un moment d'observation. On t'en sert pour voir est-ce que tu travailles bien, si on va t'accepter ou pas. Mais tu es pressé que ça puisse finir, parce que le stage, à la fin du stage, on peut dire que tu n'es pas bien. Mais Samuel a fait un stage jusqu'à, depuis il avait peut-être 5-7 ans, jusqu'à peut-être l'âge de 30 ans. avant qu'il ne soit établi prophète. C'était un stage au service de l'Éternel devant Élie. Amen. Devant, c'est-à-dire qu'il était chaque fois avec Élie en observation. Élie l'observait à tout moment avant que vraiment il ne prenne la responsabilité. Il était en observation permanente pendant en tout cas plus de 10 ans. C'est pas facile. Il faut de l'obéissance pour être un stagiaire pendant plus de 10 ans. Faire même un stage de 3 mois, c'est pas facile. N'en parlons pas de faire un stage de plus de 10 ans au service de l'Éternel devant Élie. Quand on dit devant Élie, sous le contrôle d'Élie, la supervision d'Élie, la rigueur d'Élie. Et Élie n'était pas un homme facile, comme nous allons le voir plus tard. Alors, il était vêtu, on dit que et l'enfant était vêtu d'un effort de lin. C'est-à-dire, quand tu voyais Samuel, tu vois, il est vêtu d'un effort de lin. Mon complet ce matin, il me plaît très bien. Mais si on me dit à chaque fois que tu dois m'habiller comme ça, à tout moment, ah, je ne serai pas content. J'aimerais bien changer d'habit. Mais Samuel, il était vêtu d'un effort de lin. Quand on le voit, il a un effort de lin. Toujours le même habit. Un effort de lin. Comme Jean-Baptiste, voilà, qui était habillé en habit de chameau, en peau de chameau, quelque chose de ce genre. Donc, quand on le voyait, Élie aussi avait un habit typique. Donc, ça, tout ça là, je vais relever l'obéissance dans la vie de Samuel. L'obéissance. Le fait d'accepter de porter cet habit en tant que petit sacrificateur. Mais c'est pas facile quand même d'avoir un seul habit à tout moment. Alors, donc, quand on lit chapitre 2, verset 22, on dit j'ai dit les enfants d'Élie avaient un mauvais témoignage parce qu'ils se comportaient très mal et Élie les ménageait. Il était tendre à leur égard. Cependant, Samuel ne les imita point. Bien au contraire, il se laissa transformer par Dieu. La Bible dit qu'il était agréable à Dieu et aux hommes. Vous savez que les enfants d'Élie se comportaient mal. C'est à cause de cela que finalement Élie a été banni. Mais Samuel, imaginez un tout petit peu. Les enfants d'Élie, qui étaient les premiers responsables, qui étaient les enfants qui devaient donner l'exemple, qui avaient leur père et leur mère, et qui étaient devant la sacrificature. Couchait, la Bible dit qu'il couchait même avec les femmes dans les temples de l'Éternel. Et Samuel qui n'avait pas son père, il n'a pas sa mère, il était loin de son père et de sa mère. Il avait là un mauvais exemple devant lui à imiter. Et personne ne pourrait le... En fait, il serait réprochable, mais pas beaucoup. On va dire même les enfants d'Élie font. Qu'est-ce que vous voulez? Lui aussi, lui qui n'a pas ni père ni mère, il n'a pas quelqu'un pour l'éduquer. Il va suivre le même exemple. Mais Samuel ne les a pas imités. L'obéissance. Voilà. On peut être au milieu d'une population perverse. Comme je disais à Michel à Paris, moi je m'en fous de la vie parisienne. Quand je sors, je vais à mon travail. Si je finis mon travail, soit je suis au boulot, ou bien, au lit, ou bien je suis en classe en train de suivre des cours parce que j'ai un objectif à atteindre. Tout ce beau monde qui grouille, ça me regarde. Je m'en fous de ça. L'obéissance. On peut être au milieu d'une population perverse, d'une génération perverse. Mais quand on est consacré à Dieu, quand on décide de se consacrer à Dieu, on peut être différent de toutes ces personnes-là. C'est sûr. Je ne suis pas obligé, parce que je suis au milieu des gens mauvais, je ne suis pas obligé de vivre comme eux. Même Lot, la Bible dit que son âme était journellement tourmentée à Sodome et Gomorrhe. Son âme était journellement tourmentée par le péché. Mais Lot... C'est vrai qu'il a eu beaucoup de problèmes, mais la Bible ne dit pas quand même qu'il s'est perverti. Non. Il a été tourmenté, mais il est resté ferme. Alors, donc, Samuel, c'était son cas. Il était obéissant. Pour vous dire combien on peut être obéissant. Amen. Il y a des enfants, il y a des jeunes enfants parmi nous. Vous pouvez être avec vos camarades en classe, ils peuvent avoir de mauvais comportements, mais vous pouvez avoir un comportement différent. Vous voyez comment vit... votre papa, votre maman, comment ils suivent le Seigneur, vous lisez la Bible, vous connaissez les Écritures, vous pouvez être différent de ces personnes, vous n'êtes pas obligé de les imiter. Amen. Vous pouvez être différent. Ah oui, c'est ce que la Bible nous enseigne. Alors, quand on lit chapitre 2, verset 35, Dieu dit que je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et mon âme. Et c'était donc de Samuel que Dieu décrivait ainsi. Il a dit, je vais établir un sacrificateur fidèle. Donc, nous voyons vraiment que Samuel était obéissant. Il était au service de l'Éternel devant Élie. Il était couché dans le temple de l'Éternel. Quand on dit qu'il était couché, pourquoi on le fait coucher dans le temple de l'Éternel? Chapitre 3, verset 3 nous dit ça. Il était couché dans le temple de l'Éternel là où était l'arche de Dieu. La Bible précise bien là où était l'arche de Dieu. Vous voyez que ce n'est pas facile. Déjà, même quand on est à l'église, il faut avoir un certain comportement, un bon comportement. Mais si tu dois être dans les temples de l'Éternel, là où il y a l'arche de Dieu, là, c'est plus difficile. Hein? C'est vraiment difficile. Mais Samuel s'est couché là et il n'a pas eu de problème. On sait que Uzza s'est approché même de l'arche de Dieu. Uzza a touché à l'arche de Dieu. Uzza est mort. Mais Samuel était couché hein, dans les temples de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Je ne sais pas s'il était vraiment couché là où est l'arche de Dieu. Non, je ne pense pas qu'il soit couché dans le sein des saints. Mais il était en toi dans une enceinte du temple de l'Éternel. C'est ce que je pense. Alors donc, il reçoit vraiment que Samuel était obéissant et qu'il obéissait promptement à Élie. Comme je l'ai dit passé, chapitre 3, verset 4 dit, « Mais voici. » Quand il a entendu une voix qui l'appelle, il est venu dire à Élie, « Mais voici. » Une première fois. Chapitre 3, verset 5, il est venu dire encore à Élie, « Mais voici. » Chapitre 3, verset 6, il est encore venu dire à Élie, « Mais voici. » Chapitre 3, verset 8, il a entendu une voix, il est encore venu dire à Élie, « Mais voici. » Vous voyez? Quand il entend la voix, il se lève et s'en va dire, « Mais voici. » Quand il entend la voix, il se lève et s'en va dire, « Mais voici. » Ah ben, vous savez, aujourd'hui, quand tu te mets à appeler quelqu'un, il y a une voix qui, tu entends une voix qui t'appelle comme ça. C'est la voix d'Élie, tu vas, il dit c'est pas lui. Ensuite, il y a une autre voix qui appelle. Deux fois, trois fois. Je sais que je connais pas trop en Europe ici, mais si c'est chez nous en Afrique là, l'enfant va se mettre à insulter la voix là. La voix qui l'appelle, qui l'embête là, va se mettre à l'insulter. Mais Samuel ne l'a pas fait. Il n'a pas insulté la voix. Il n'a pas dit, mais qui est celui-là qui m'appelle hein? Qui est cet insensé qui m'appelle et qui m'embête et qui gâte mon sommeil au cours de la nuit là? Ne m'embête pas là. Il pouvait dire ça. Mais non. Chaque fois qu'il entend la voix, il s'en va dire, mais voici. Chaque fois qu'il entend la voix, il s'en va dire, mais voici. Au moins, mais voici une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinquième fois, parle éternel, quand ton serviteur écoute. Amen. Donc vraiment, nous voyons l'obéissance. Quand on veut être consacré, il faut qu'on soit obéissant. Si on n'est pas obéissant, en toi, il n'y a pas de consécration. Voilà. Il y a des gens qui disent qu'ils veulent servir Dieu. En Afrique, on voit cela. Il y a des gens qui disent, moi, je dépends de Dieu seul. Dieu et Dieu seul. Je n'écoute personne. Aucun individu, aucune personne, je n'écoute. C'est Dieu seul que moi, j'écoute. Alors, sachez que la relation avec Dieu est horizontale. Horizontal et vertical. Vertical et horizontal. Ça dit qu'on est en communion avec Dieu, on est aussi en communion avec les hommes. Et pour servir Dieu, c'est les hommes qu'on va servir. Personne ne verra Dieu en chair et en os pour aller lui servir. C'est les hommes que tu sers. Donc, il faut aussi obéir aux hommes, obéir aux responsables. C'est ça la consécration. Quand tu dis, moi, je n'écoute personne, c'est Dieu seul que moi j'écoute. C'est carrément, c'est dangereux même cette affirmation. Tu l'écoutes comment? Je ne sais pas si toi, tu es un nouveau prophète ou tu es Moïse, je ne sais pas. Mais il faut écouter les hommes, il faut écouter les responsables. Voilà. Et c'est ce que Samuel a su faire. Tant qu'il entend une voix directement vers Élie, mais voici. Jusqu'à cinq fois, toujours il va vers Élie pour prendre la température, sans s'énerver contre la voix qui persiste. Voilà. À partir du moment où Élie a dit une fois, ce n'est pas moi, deux fois, ce n'est pas moi, trois fois, ce n'est pas moi, toujours la voix vient, ben, il était en droit de se révolter contre cette voix, d'insulter la voix, mais il ne l'a pas fait. Alors, donc, vraiment, c'est bien. Nous voyons qu'il avait même de la crainte pour Élie. Chapitre 3, verset 15 dit, quand Dieu a parlé à Samuel, il craignait même de raconter la vision à Élie, parce que ce n'était pas bon pour Élie. Il ne voulait pas dire. Et Élie a dit, que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu ne me racontes pas la vision. Et là, il a accepté de raconter la vision. C'est pourquoi je dis Élie n'était pas tendre à l'égard de Samuel, il était dur. Pourtant, pour ses enfants, la Bible dit qu'il les mélangeait, il mélangeait ses enfants, mais à l'égard de Samuel, il sévissait. Mais ça a été bien pour Samuel. Ça veut. Chez nous, quand le colon est venu pour coloniser l'Afrique, on a commencé, l'école est venue et on a commencé à mettre les enfants à l'école. Les parents ne voulaient pas du tout qu'on mette les enfants à l'école. Moi-même, mon grand frère, grâce à qui moi j'ai été aussi scolarisé, parce que si lui n'était pas à l'école, je ne serais pas scolarisé. Je vous ai donné mon témoignage quand je suis arrivé ici. C'est lui qui m'a scolarisé. Lui-même, il a été attrapé de force pour inscrire à l'école. Et mon papa, s'était révolté. Il est même parti voir les gens qui l'avaient saisi pour leur dire de faire attention. On lui dit, mais qu'est-ce que toi tu peux faire? Il dit, non, ne me voyez pas petit comme ça. Je suis capable de quelque chose que vous ne connaissez pas. Et chaque fois, les gens racontent cette histoire chez nous et on rit. Donc, les gens ne voulaient pas mettre les enfants à l'école. Alors, qu'est-ce que les chefs de village faisaient? Les chefs de village envoyaient les enfants des pauvres, les enfants de ceux qui n'ont pas les moyens. C'est eux qu'ils envoyaient à l'école. Mais eux-mêmes, leurs propres enfants, là, ils les gardaient sans les envoyer à l'école. Mais ils ne savaient pas que le temps allait changer. 10, 15, 20 ans après, les enfants des pauvres sont devenus des grands fonctionnaires. C'est eux qui sont des ministres qui dirigent le pays. Et leurs enfants qu'ils ont refusé d'inscrire sont restés des pauvres villageois avec eux. Ils ont compris que, ah, il fallait inscrire les enfants, mais c'était tard. Pour dire quoi? Quand tu as l'enfant d'autrui et que tu es trop rigoureux à l'égard d'un enfant, d'un orphelin ou l'enfant d'autrui, il sera bien. Si tu menaces tes propres enfants, tu ne veux même pas qu'on les parle ou les touche, ben, ils vont aller dans l'herbe. Avec le temps, tu verras que la discrimination que tu faisais là, ben, ça a été au profit de l'enfant d'autrui et toi-même, tes enfants se sont détruits. C'est ce qui est arrivé quand le colon est venu. Alors Samuel, je crois que c'est le cas. Élie était rigoureux à son égard. Comment tu vas dire à un enfant que Dieu te traite dans toute sa rigueur? Si vous voulez, vous pouvez lire. Tu ne me racontes pas la vision. Chapitre 3, verset 17 à 18. Élie le contraignit avec des mots forts en disant que Dieu te traite dans toute sa rigueur. Si tu caches quelque chose. Donc ça veut dire que vraiment il sévissait pour Samuel. Mais lui, ses propres enfants, même qui commettaient même l'adultère, il les mélangeait. Alors, donc nous voyons que Samuel était obéissant jusqu'au bout. Maintenant, nous allons aller vers la fin, nous allons parler de la soumission. Il était soumis. Voilà. L'obéissance, la soumission, ça va ensemble. Il ne contestait pas Élie. On ne le voit nulle part contester Élie. Il exécutait les tâches que Élie disait. Quand on dit Samuel était au service de l'Éternel, je veux que vous puissiez penser, qu'est-ce qu'il faisait? Élie était sacrificateur, ses enfants étaient aussi des sacrificateurs. Mais Samuel, il était un jeune stagiaire. Qu'est-ce qu'il faisait? Je suis sûr que Samuel n'offrait pas de sacrifices. Mais on dit qu'il fut au service de l'Éternel devant Élie. Qu'est-ce qu'il faisait au juste? Faut penser, qu'est-ce que Samuel faisait? Peut-être qu'il balayait le temple, ramassait les excréments des animaux qu'on envoyait pour sacrifier. Laver le sang qui, parce qu'on égorgeait les animaux à tout moment, laver le sang. Peut-être laver les habits des enfants d'Élie ou Élie même ses propres habits qui étaient tachetés de sang à tout moment. Peut-être qu'il lavait les habits. Bon, peut-être qu'il allait chercher de l'eau parce que faut se dire qu'en ce temps, il n'y avait pas de fontaine où il faut aller ouvrir, avoir de l'eau. Peut-être qu'il partait chercher de l'eau de loin pour envoyer, comme en Afrique. Les puits sont loin, les marigots sont loin, il faut aller loin pour aller chercher de l'eau pour envoyer. Alors, quand on dit qu'il était au service de l'Éternel, ne croyez pas qu'il était un grand sacrificateur. Non, c'était un jeune stagiaire. C'est pour faire des choses viles. Vous voyez la soumission? Des choses viles, voilà. Des choses viles. Mais la Bible dit qu'il était au service de l'Éternel. C'est pour vous dire ce matin que vous avez une vie commune ici, c'est très bien. Les gens n'ont pas les mêmes tâches. Il y a des gens qui font certaines tâches, d'autres font d'autres tâches. Ne croyez pas que ce que vous faites là, c'est des choses sans importance ou que Dieu ne voit pas. Mais c'est ça le service de Dieu. Samuel était au service de l'Éternel. Et nous allons voir que même Dieu, le service de Samuel plaisait beaucoup plus que le service des enfants d'Élie. Donc, il était vraiment au service de l'Éternel. Donc, le quatrième point pour terminer, c'est l'humilité. Comme je l'ai dit tout de suite, le chapitre 1, verset 3 dit, les enfants d'Élie étaient sacrificateurs de l'Éternel. Chapitre 1, verset 3. Chapitre 2, verset 13 dit, ces sacrificateurs devant l'Éternel. Donc nous voyons que les enfants d'Élie étaient des sacrificateurs. Ils avaient des titres. Ils avaient des titres. On ne dit même pas leur nom. On dit les enfants d'Élie, sacrificateurs. Ils étaient sacrificateurs. Ils avaient des titres en tant que sacrificateurs. Mais quand on parle de Samuel, on dit l'enfant fut au service de l'Éternel. On ne dit même pas quel titre il portait. Vous voyez, aujourd'hui, les gens cherchent des titres. Pour le travail, en Afrique, c'est comme ça, les gens cherchent des titres. Dès que quelqu'un a rempli du Saint-Esprit, commence à parler en langue, et qu'il a fait une petite étude biblique, il s'est fait appeler prophète. Voilà, les personnes qui disent, moi je suis prophète, appelez-moi prophète. Il y a même des gens qui disent que, appelez-moi, il y a un pasteur qui avait dit, appelez-moi l'homme dont l'œil voit les choses de Dieu. Ben, ça c'est quel nom comme ça, un nom trop long. L'homme dont l'œil voit la vision de Dieu ou les choses de Dieu. Évangéliste, apôtre, bishop, de grands titres. Le Seigneur utilise beaucoup le pasteur Michel, mais je vois que Michel n'a pas pris un grand titre pour dire je suis voilà, le bishop ou l'archibishop. En tout cas, la jeune génération d'aujourd'hui, en Afrique, c'est comme ça. Les gens prennent de grands titres, comme les enfants d'Élie, ils aiment les grands titres. Mais, en réalité, ce n'est pas le titre qui compte, c'est le travail qui compte. Samuel n'avait pas de titre, comparativement aux enfants d'Élie, il n'avait pas de titre. Quand on parle de Samuel, on dit qu'il était au service de l'Éternel. L'enfant était au service de l'Éternel. Il était couché par-ci, il était couché par-là, au service de l'Éternel. On ne dit pas exactement qu'est-ce qu'il faisait même. Mais aux enfants d'Élie, on dit qu'ils étaient sacrificateurs de l'Éternel. Mais à la fin, qui fut approuvé? Qui a été approuvé? N'est-ce pas Samuel? Celui qui n'avait pas de titre, celui qui balayait les temples, qui ramassait les excréments, qui allait chercher de l'eau pour venir, qui peut-être, je sais pas, lavait les habits, lavait le sang. C'est lui qui a été approuvé, qui a été élevé au-dessus d'Israël. Et ceux qui avaient des titres, mais qui n'avaient pas le comportement des titres dont ils portaient, ils ont été donc rabaissés, ils ont été cassés. Donc, je vous encourage à servir Dieu, de quelque manière que ce soit. Ce n'est pas les titres qui comptent. Les titres, ça c'est les hommes. Voilà. Je suis content que chez nous, au Burkina, tout le monde est pasteur. Michel le sait. En fait, en dehors de la jeune génération aujourd'hui, chez nous, tous les pasteurs, même si tu es président de quoi, tu es pasteur. Pasteur ici, pasteur Michel, pasteur ici. Notre président, Michel Ouédraogo, on dit pasteur Michel. C'est tout. Pasteur Michel. Prends pas de grands titres. Voilà. C'est bien. Je ne dis pas de titres. Si tu respectes, c'est bien. Si tu dis que tu es apôtre et chaque jour, tu ne fais que fonder des églises par-ci, par-là, on voit les églises s'ouvrir. Bah, c'est bien, tu es apôtre. Là, il n'y a pas de problème. Mais tu dis que tu es apôtre, tu es dans un bureau enfermé. Même pour te voir, même c'est difficile, il faut tout un protocole pour te voir. Et tu dis que tu es apôtre, tu es enfermé dans un bureau. Comme disait Michel, ces gens-là, on n'a pas à les envier. Ils n'ont pas de ministère. Ils ne prouvent pas leur ministère. Alors donc, je vous encourage, Samuel, c'était son cas, il était humble. C'est pourquoi j'ai parlé de l'humilité. Il était humble, sans titre. Voilà. Et les résultats, c'était clair. Samuel a été approuvé de Dieu. En fin de compte, Samuel a été un instrument de réveil. Un grand instrument de réveil. Vous savez, quand j'ai lu le chapitre 3, il a dit que la voix de Dieu était rare en ce temps. On n'entendait pas la voix de Dieu. Dieu ne parlait pas. Dieu parlait très rarement. Presque pas. Et Samuel a été celui qui a commencé à entendre la voix de Dieu. Il a envoyé un réveil. Voilà. C'est lui qui a commencé à entendre la voix de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Et de là, ça a été un réveil vraiment qui a bouleversé Israël. Après donc que Élie et ses enfants ont été balayés, Israël a commencé maintenant à avoir la victoire. On pourra, dans les prochains jours ou les prochaines années, s'il plaît à Dieu, développer le chapitre 3. Alors, Israël a commencé à voir maintenant la main de Dieu et à reprendre les territoires que les Philistins les avaient retirés. Donc, ce matin, c'est vraiment ce que j'avais à cœur à partager avec vous. Soyons consacrés à Dieu. Voilà. Un boxeur se consacre à la boxe. Un joueur à un régime alimentaire. Il se consacre donc au football. Alors, nous disons serviteurs de Dieu. Et comme je l'ai dit, ne voyez pas serviteurs de Dieu les pasteurs seulement. Non. Même vous qui n'avez pas ce titre de pasteur, vous êtes des serviteurs et des servantes de Dieu. Comme à la manière de Samuel. Consacrez-vous. Et vous serez donc des instruments de réveil, même dans un monde endormi. Samuel était donc au milieu de l'adultère, mais il a été un instrument de réveil, même au milieu des gens adultères. Vous pouvez donc envoyer le réveil. On n'a pas besoin de changer d'église. Il y a des gens qui changent d'église, disent oui, mon église est morte, il n'y a pas le Saint-Esprit. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Dieu est là. La Bible dit que Samuel était couché dans le temple de l'Éternel et la lampe de Dieu n'était pas éteinte. Ça veut dire qu'il y avait le Saint-Esprit qui était là. La présence de Dieu était là. Ce matin, la présence de Dieu est là. Toi, tu peux être un instrument de réveil. Si tu penses que ça ne va pas dans la vie des gens, tu peux faire beaucoup de choses. À partir du moment où tu es un enfant de Dieu, tu as tous les dons. Voilà. Tu as potentiellement toutes les capacités. Dieu te donne le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir, comme a dit Jésus. aller dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse.